On a donc Jean-Michel Ruppert, qui est à la fois acteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur. Au milieu, on a donc Jean Marini, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est donc maître conférence, professeur émérite et essayiste, et dont le dernier ouvrage sur le sujet s'intitule « Vampire de la légende mythique moderne », que vous pourrez retrouver à la boutique. À sa droite, on a Jérémy Fleury, qui est dessinateur et qui a récemment sorti une adaptation jeunesse du Dracula de Bram Stoker, que vous pouvez aussi retrouver là-bas et qui peut vous signer. Et encore à sa droite, on a donc Alain Pozzoli, à la fois homme de radio, parolier, romancier et essayiste, que vous avez entendu en ouverture du salon, et dont le dernier ouvrage est une biographie de Bram Stoker qui s'intitule « Bram Stoker dans l'ombre de Dracula ». Donc, pour commencer le jeu des questions, je vais laisser le micro à mon collègue Yannick, qui va donc poser la première question. Pour que vous puissiez répondre, il y a un micro filaire que vous pouvez faire circuler entre vous juste ici.
Bonjour à tous. Oui, donc je vais vous poser la première question qui concerne un peu le contexte historique de Dracula. Pourquoi, d'après vous, Dracula suscite plus d'engouement de la part des romanciers, des réalisateurs, plutôt que des romans comme le vampire de Polidori ou le Carmignan de John le Carré?
Je pense que ça s'explique parce que le personnage de Dracula est très théâtral, déjà ne serait-ce que physiquement avec la cape. Ceci dit, c'était une invention de Stoker, la cape. Peut-être rappeler que si Dracula a connu le succès au cinéma, c'est d'abord passé par le théâtre. Et c'est un comédien anglais qui s'appelait Milton Dean, qui justement faisait partie de la troupe du lycéen de théâtre dont s'occupait Stoker, qui a eu cette idée. Parce qu'Hamilton Dean, à l'époque où il faisait partie de cette troupe, lorsque le roman de Stoker est sorti, a eu tout de suite l'idée de l'adapter au théâtre. Et curieusement, il n'a jamais pensé, ou du moins il n'a jamais osé en parler à Stoker. Et il a dû attendre que Stoker soit mort pour demander l'autorisation à Florence Falcon, pour lui demander les droits. Et donc il a monté pour la toute première fois Dracula en Angleterre en 1924. Et c'est lui qui a eu l'idée d'affubler le personnage principal d'une cape. Et c'est à partir de ça que finalement, on a assimilé le personnage du vampire à un personnage qui porte la cape, parce que ça, à aucun moment dans le roman, sauf à un passage, mais c'est un peu flou, c'est pas vraiment une cape, c'est une espèce d'aile de chauve-souris. Mais sinon, Stoker n'a jamais utilisé ce stratagème. Et je pense que, justement, c'est grâce au théâtre et donc au cinéma que l'image archétypale du vampire et de Dracula en particulier est née avec la cape. Et c'est vrai que c'est un élément visuel important, et je pense que c'est peut-être une des raisons qui font que ça a suscité beaucoup d'adaptations de par le monde.
C'était quoi la question?
En fait, c'est pourquoi Dracula suscite-t-il plus d'engouement de la part des romanciers et réalisateurs que des romans comme Le Vampire de Polidori ou Carmignan de Fanny? En fait, pourquoi Dracula, finalement, il y a autant de films sur le sujet, autant de livres, alors que les deux autres, qui sont un petit peu plus anciens, n'ont pas généré autant de littérature ou d'adaptations cinématographiques?
Personnellement, moi, je pense que c'est parce qu'il y a tout. C'est que Stoker, comme certains auteurs, il y en a peu, hein, c'est un roman qui fait partie des fondamentaux, certes, de la littérature fantastique, mais à mes yeux, de la littérature tout court. Et c'est parce qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a l'amour, il y a l'action, il y a l'intrigue, il y a une chose très originale pour l'époque, parce que c'est écrit sous la forme d'un roman, d'un journal, pardon, c'est écrit sous la forme d'un journal, qui est écrit par chacun des personnages. Et que c'est un bouquin qui fait 500 pages, qu'on voit pas passer, on le lit comme ça d'une traite, ou peut-être en deux nuits, quoi. Et il y a très peu d'œuvres comme ça dans le monde qui, à mon avis, peuvent être aussi fédérateurs. C'est tout simplement c'est un trait de génie de Stoker. Il y a comme ça quelques œuvres comme ça qui ont été conçues comme ça. Et je crois qu'on ne passe pas derrière sans se référer au bouquin systématiquement. Il avait presque tout inventé. Après, on peut extrapoler.
intrigué, c'est que Le Vampire de Polidori n'a jamais été adapté au cinéma, ni à la télévision. Alors qu'il serait tout à fait possible.
C'est très court aussi.
Pardon ? C'est très court. C'est très court, c'est très court. Et puis, il faut dire aussi que Le Vampire de Polidori, c'est un texte qui n'a été découvert que récemment. Ça fait une vingtaine d'années qu'on connaît l'existence de ce texte, alors que Dracula est connu depuis beaucoup plus longtemps. Bon, ça n'est pas une explication, mais c'est quand même un élément. Quant à Carmilla et La Morte Amoureuse, par exemple, pour citer quelques... Alors, La Morte Amoureuse, ça peut paraître trop littéraire, peut-être. Et Carmilla, c'est essentiellement par le cinéma qu'on connaît cette nouvelle. Et c'est dommage, d'ailleurs, parce que, à mon avis, ce sont les deux meilleures nouvelles sur le thème du vampire.
Je continue. Et je pense, parce que c'est en entendant Jean que ça me fait penser, je pense aussi, quand je dis qu'il y a tout, je crois que parce que c'est justement que si on prend Carmilla ou Le Vampire, c'est très bien écrit, c'est très littéraire, c'est très charpenté, mais ça reste de l'écrit, de la littérature. Alors que Stoker arrive à donner accès, c'est lisible par tout le monde, ça reste quand même de la littérature, mais il fait le pas du grand public, je pense. Et donc, donc je reviens à ce que je disais, je pense que le trait de génie est là, c'est que il a su humblement, comme c'était un personnage à la fois très puissant et très humble. Et quand on lit Dracula et quand ensuite on fait des recherches sur sa vie, on s'aperçoit qu'il y a énormément de corrélation entre cet homme et son œuvre. Et tout simplement, bon, moi je vous le dis, dans Dracula, il se raconte avec énormément de sincérité. Et en fait, si ensuite on s'amuse à prendre la grille de sa vie et à l'appliquer sur la grille du roman, on comprend de suite d'où viennent les choses, quoi. Mais il l'a fait avec une telle sincérité. Je crois qu'il a convaincu, quoi. Enfin, ça l'a même complètement dépassé. Hein, je pense.
Je pense qu'une chose aussi, c'est qu'il y a une chose qui est très caractéristique du style de Bram Stoker, c'est qu'il est déjà très cinématographique avant la lettre. Ses descriptions, comme je disais tout à l'heure, sont très minutieuses. Il travaillait vraiment au détail près. Et ça se retrouve d'ailleurs dans ces nouvelles qui sont très ciselées, qui sont vraiment très très précises. Et il s'attache énormément au décor, il s'attache énormément, encore une fois, aux détails. Et quand on lit, on voit. Et je pense que c'est peut-être l'explication aussi qu'on a plus tendance à l'adapter lui qu'un autre auteur de la même époque.
Oui, je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Tout à l'heure, on m'a posé une question qui m'a un peu embarrassé, parce qu'elle est à la fois évidente et difficile. Il est difficile d'y trouver une réponse. Pourquoi, dans une certaine mesure, comme j'ai essayé de le montrer dans mon exposé, les vampires tels que Dracula sont un petit peu maintenant ringards, sont un petit peu... Et pourquoi Dracula survit-il malgré tout et a toujours autant de succès ? Alors, je pense qu'en fait, Dracula a outrepassé le rôle d'un personnage de roman, il est devenu un véritable mythe, au même titre que Don Juan, au même titre que Frankenstein.
J'appelle les fondamentaux.
Voilà, c'est ça, exactement.
Il rejoint les fondamentaux.
Jérémy ?
J'ai pas grand chose à ajouter, tout ce qui a été dit a été très bien dit.
Donc, merci.
Enfin, un petit truc, parce que je découvre des choses en plus que je ne connaissais pas, donc c'est très bien. Moi, ce qui m'a marqué dans le roman de Stoker et qui pourrait expliquer aussi cette adaptation, peut-être à l'époque où il est sorti, c'est le côté enquête scientifique qui rejoint d'autres romans policiers de l'époque. Et qui, je trouve, fonctionne très bien, vu que c'est épistolaire par des journaux, journaux intimes, coupures de journaux. Le lecteur est amené à faire sa propre enquête, puisque tout n'est pas dit, surtout à l'époque, même si maintenant on connaît un peu plus, donc il y a des éléments de suspense qui fonctionnent un peu moins bien qu'à l'époque, mais je pense que au moment où il est sorti, et ce côté enquête a peut-être servi à l'adapter.
Juste te poser une question, ton adaptation elle est contemporaine ou tu es resté dans le 19e?
Je suis resté dans fin 19e, mais pas réaliste, il y a beaucoup de suggestions. Mais oui, on a des costumes qui font penser fin 19e, ce n'est pas l'adaptation de Canaloy.
Très bien.
En changeant un petit peu de question, dans les années 70, un essai signé McNally et Florescu, en fait, a assis finalement le lien entre le personnage historique et le personnage de fiction. Donc, je voulais vous demander justement, est-ce que maintenant ce lien entre le personnage historique et le personnage de fiction, c'est une dimension incontournable quand on veut adapter Dracula, ou est-ce qu'on peut quand même toujours s'en affranchir?
Non, je pense pas. Je pense que quand on adapte, d'abord, on est libre de faire ce qu'on veut. Alors, le choix, c'est est-ce qu'on reste fidèle à l'œuvre originale ou est-ce qu'on se l'approprie et est-ce qu'on déborde sur un autre univers à la lisière de l'original, de son propre univers à soi. Mais je vois pas pourquoi on serait obligé de lier les deux. Alors, on peut le faire, Coppola l'a fait, mais c'est pas une case obligée.
Non, moi je voulais juste dire, c'est vrai que quand on adapte, on peut faire ce qu'on veut, bon, ça c'est clair, mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher, ce sont des faits réels. Je raconte une histoire qui se passe à partir de faits réels, on ne peut pas détourner le fait réel il existe. C'est pour ça que dans tous les films ou les livres, vous avez toujours cette mention qui défile, qui est un peu notre caution, en disant que cette histoire s'inspire de faits réels, mais les personnages sont des pure fiction, etc. Et je pense que, c'est-à-dire que les auteurs se couvrent, voilà. Mais je pense que, à mon avis, Stoker a été malin, enfin, je ne sais pas comment dire, il n'a pas rusé, mais il a trouvé cette histoire de ce Vlad Tepes, voilà. Et ça, c'était aussi pour peut-être rendre encore plus le mythe crédible, c'est-à-dire en disant ça vient d'une réalité, etc. Et c'est vrai que bon, c'est ça qui fait aussi que quand on lit le roman, on essaie de vouloir nous-mêmes vérifier. On va chercher des trucs, voilà, et on trouve qu'effectivement il y a ce fameux Vlad Tepes, etc. etc. Bon. Mais il a très bien joué avec ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit je vais vous raconter la vraie histoire. Il a dit il se peut que. Voilà. Et c'est ça qui, à mon avis, est très excitant. Parce que c'est le « il se peut que » qui nous intrigue à tous. Quoi. Voilà. Enfin, je crois. C'est pareil quand on parlait de Don Juan. C'est pareil pour Don Juan. Don Juan est un personnage Molière. Quand on arrive à Molière, il y en a eu avant des Don Juan. Je peux vous dire qu'il y en a eu un paquet. Et Don Juan, à la base, est un personnage qui a existé. Qui a été un personnage reconnu, existant. La société espagnole, bon, Tirso de Molinas, etc. Bon, mais ça, il a été complètement. Voilà, alors c'est ça qui me paraît très intéressant, c'est que tout prend sa source dans la réalité et tout devient légende. Et comme nous, les êtres humains, nous devons conserver notre rapport à l'imaginaire, il faut toujours choisir la légende. Et entre la légende et la réalité, on choisit la légende, mais aucune légende ne peut exister sans la réalité.
Quand on regarde les différentes adaptations, en fait, on se rend compte que Dracula est présenté comme un monstre, souvent assoiffé de sang, ou comme un séducteur dans les deux. En tous les cas, comme un être négatif, d'après vous, pourquoi cette stigmatisation?
Je pense que l'explication, à mon sens, elle est très simple. C'est que Stoker a donné, en écrivant Dracula, l'image que la société victorienne aurait, ou du moins avait, de ce genre de personnage, c'est-à-dire d'un individu qui est complètement en marge par rapport à la société en place, qui ne fonctionne absolument pas avec les codes imposés à tout le monde. Donc, quelque part, c'est un paria. Donc, il a donné l'image que tout paria, de ce qu'était tout paria par rapport à la société dominante. Et ce qui explique peut-être que, justement, au fil du temps, les mentalités évoluant, il devient plus humain, il se rapproche de nous, et donc on a une vision de lui qui est moins faussée, moins autoritaire, moins... Je pense que c'est peut-être la raison, parce que vraiment, l'image qu'on a effectivement du vampire aujourd'hui est presque à l'opposé de ce qu'elle était il y a un siècle ou deux. Donc voilà, ça n'engage que moi, je pense.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. Je pense que le vampire, le personnage du vampire, moi, j'aime toujours la comparaison avec l'auberge espagnole. Hein. C'est-à-dire que chaque époque y apporte sa contribution. Ce qui fait peut-être la spécificité du personnage. Parce que le loup-garou reste toujours le loup-garou, la créature de Frankenstein reste toujours la créature de Frankenstein, le Dr Jekyll et Mr Hyde restent toujours ce qu'ils sont, alors que Dracula évolue, évolue selon les tout en restant lui-même. Hein, c'est ça qui est véritablement une prouesse.
Oui, je pense que ça évolue aussi parce que. À l'époque, dans la société victorienne, 1897, quand paraît le roman, donc on est en plein serrage victorien, et Stoker vraiment fait pénétrer l'alien dans cette société. Mais il le fait pas, le mec il n'arrive pas tranquille à l'aéroport. Hein. Il le fait arriver, tempête, machin, il y a des morts partout, des trucs. Et bon. Donc je veux dire, il y a une espèce d'intrusion là. C'est-à-dire que Bram Stoker, je pense, était très conscient de la société dans laquelle il vivait. Il était très conscient de ses propres frustrations. Sinon, il n'aurait jamais écrit Dracula. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un de profondément honnête et qui a su se raconter. Et donc, il fait pénétrer, mais vraiment, j'emploie le mot volontairement, il fait déchirer la société victorienne, un petit peu, je pense, comme Irvine l'a pénétré à lui dans son univers, c'est-à-dire qu'on retrouve tout d'un coup, en voyant cet acteur de théâtre dont parlait Alain tout à l'heure, il a une révélation comme ça, et lui aussi se met à évoluer dans sa vie, se met à évoluer, et donc il se pourrait bien que ce personnage dit monstrueux ou dit redoutable puisse être un facteur d'évolution et non pas un facteur d'involution. Je pense que dans toutes les sociétés, quelle qu'elle soit, le moment critique, c'est quand la société devient molle, qu'elle s'installe, comme ça, et qu'il est bon de temps en temps de balancer quand même des personnages ou des concepts qui font un peu se réveiller les gens. Quoi. Et alors, il se trouve que le vampire, à mon humble avis, reste un des derniers, peut-être le dernier personnage à pouvoir faire ça, parce qu'il nous touche, parce que c'est un être humain. Je veux dire, c'est pas forcément un super-héros, c'est pas Batman, c'est pas Tarzan, c'est pas bon. C'est un être humain et qui aussi a sa part de faiblesse parce que c'est une victime. C'est un non-mort. Et c'est pas facile de nos jours d'être un non-mort. C'est pas évident. Donc je veux dire, il est aussi victime. Et il aimerait bien ne pas forcément mordre les gens pour vivre de leur sang, mais eh ben, c'est comme ça, il est un petit peu obligé. Et on s'aperçoit que souvent, les pics, si on prend le siècle là, qui vient de s'écouler, ça sort toujours au moment de crise. Hein, le trot de Boeing sort en 29, etc., etc., au moment de crise. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le pays est quand même sacrément en crise, et il y a toutes ces espèces de... c'est comme par hasard, c'est les vampires qui reviennent. C'est pas tellement les super-héros, c'est surtout les vampires sous toutes formes, bonne ou mauvaise, après les Twilight et compagnie, mais je veux dire, c'est quand même le vampire qui revient. Voilà. Et je relis ça, moi, au génie de Stoker, parce que Stoker a su, il a fait peur, quoi. Voilà. Il s'est fait peur lui-même, d'ailleurs. Enfin,
voilà. Ce qui est intéressant aussi du personnage de Dracula, mais peut-être cette question allait-elle être posée plus tard. c'est l'ambiguïté même du roman dans son écriture. Parce qu'on a l'impression, quand on lit, on fait une première lecture de Dracula, que c'est un roman édifiant qui a été écrit par un victorien, pour un public victorien, hein, donc où le bien triomphe sur le mal, où le méchant est éliminé. Et en même temps, il y a quand même quelques fissures dans le texte qui montrent qu'on sort de cette rigueur. Je pense par exemple à deux passages qui me paraissent très significatifs. Celui où Jonathan Harker rencontre les trois femmes de Dracula, et lui qui est un victorien bon teint, sans imagination, il est quand même tenté de succomber à la tentation. Et ça, c'est pas du tout victorien. Et puis, il y a une autre scène aussi, qui est bien connue aussi, où Dracula entre dans la chambre de Mina pendant que le mari est en train de dormir et se lacère la poitrine avec les ongles et invite Mina à boire le sang à même la plaie, ce qui n'est pas du tout victorien non plus. Et c'est d'autant plus curieux que Stoker lui-même, comme le rappelle d'ailleurs Alain dans son livre, Stoker lui-même était un partisan farouche de la censure en matière d'œuvres littéraires, et il aurait dû censurer lui-même. Mais apparemment, il y avait quelque chose qui poussait, quelque chose de l'intérieur, qui allait au-delà du discours victorien bontain.
Tu as employé un mot qui est très juste, c'est l'ambiguïté. Tout est ambigu dans le roman. Déjà, Dracula, c'est un non-mort, donc ça veut dire qu'il n'est pas vivant, mais il n'est pas mort non plus. Ses relations avec Jonathan Harker sont ambiguës, celles avec Mina le sont aussi. En fait, il n'y a rien de sûr et de complètement Lucie. Déterminé.
Mina Lucie,
enfin vraiment, tout est en entre-deux. Et c'est ça qui est très intéressant dans le livre.
Oui, d'ailleurs, il y a une chose aussi qui m'a toujours intrigué dans Dracula, c'est qu'on a l'impression que c'est la lutte du bien contre le mal, et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que le mal est très séduisant, hein, finalement. Dracula, c'est un personnage qui a quand même du cran, hein, qui résiste à tout le monde, qui est seul contre tous. Et Van Helsing, lui, est censé incarner le bien. Mais quand on lit vraiment attentivement le texte, on a l'impression que c'est une vieille ganache radoteuse, hein, et qui échoue d'ailleurs dans tout ce qu'il fait. Hein. Il échoue lorsqu'il essaie de soigner Lucie, il la laisse mourir, tout en gardant le secret d'ailleurs sur sa prétendue maladie. Donc le bien et le mal, qui paraissaient coupés au couteau, c'est beaucoup plus diffus. La frontière entre les deux paraît beaucoup plus ténue que dans une première lecture.
Ah, totalement d'accord. Et puis alors, il y a un trait encore plus de génie dans le roman, c'est le personnage de Renfield. Tous les acteurs du monde rêvent de jouer ce personnage. Alors là, dans le style ambigu, parce que là, il aborde de plein fouet les problèmes de la folie, les problèmes de tout ça. Qui est fou, qui ne l'est pas. Et justement, il y a le pendant, on va dire, médiocre de Van Helsing, c'est le docteur Seward, avec son asile de fou, qui ne sait pas quoi en faire, qui soigne de manière complètement horrible, qui bourre les médicaments des patients de Laudanum. Enfin bon. Et c'est pour ça qu'il fait quand même une espèce de scanner de la haute société londonienne, et tout ça n'est pas reluisant du tout. Bon. Et c'est vrai que si on relit uniquement le roman, rien que sur l'aspect sexuel, comme des obsédés, en voulant voir du sexe partout, mais il n'y a que du sexe dans ce roman, parce qu'il explore tout. Le mono, le trio, le bi, le truc, le machin, tout y passe. Et ce personnage de Dracula se sert justement des gens les plus faibles. C'est-à-dire que il commence par Renfield, c'est Renfield qui fait tout le boulot de l'hypnotise, etc. Et puis il commence par Lucie. Et c'est là où il va y avoir l'os, c'est quand il va s'attaquer à Mina. Et là, Stoker fait encore preuve de modernisme, puisque quand même c'est Mina, c'est-à-dire une femme qui à l'époque c'était pas du tout au goût de cette société-là, hein, qui va faire en sorte que le vampire pourra être vaincu. Parce que bon, certes, ce sont les gitans à la fin, enfin les hommes qui détruisent les gitans et qui coupent la tête à Dracula, mais tout ça c'est grâce à Mina. Parce que Mina a résisté à l'emprise du vampire, elle s'est laissée assez hypnotiser pour pouvoir guider jusqu'au château. Enfin bon, et là aussi, une fois de plus, on a encore un acte de plus de modernité chez Stoker, puisqu'il dit, quelque part, il dit avant la lettre, la femme est l'avenir de l'homme. Enfin, voilà. Et on est à peine à la fin du 19e. Donc, il faut vraiment... voilà. Donc, moi, je dirais, puisque le thème, c'est quand même l'adaptation, si on fait l'adaptation du roman, on a le droit de faire ce qu'on veut, effectivement. Mais il y a quand même des grandes lignes à côté desquelles il est difficile de passer. Adapter Dracula sans Mina, sans Renfield, ou je ne sais pas quoi, bon, ce serait quand même des grosses erreurs, parce que quand même on peut dire, bien sûr que le créateur a le droit de faire ce qu'il veut, mais il a le droit aussi de faire des erreurs. Hein, bon. Et voilà, c'est comme si on adaptait, je ne sais pas, moi, les Trois Mousquetaires, le Cinquième d'Artagnan, quoi. C'est pareil, quoi, quelque part. Hein. Voilà. Et je pense que c'est un roman qui demande vraiment un grand sérieux si on veut l'adapter sans trop le trahir.
Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur Renfield, ce qui est assez curieux, c'est que dans de nombreuses adaptations cinématographiques et peut-être même théâtrales de Dracula, le personnage de Renfield, qui est pourtant un personnage central, est complètement escamoté. Dans le cauchemar de Dracula, premier film avec Christopher Lee, il n'apparaît pas. Et ça, c'est assez bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un personnage trop complexe qui fait peur aux adaptateurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est là.
Jérémy, justement, toi, par rapport au fait que ton album est une adaptation de Dracula, mais plus destinée à un public jeunesse, comment justement tu as visuellement, graphiquement dans l'album, envisager justement ce côté vraiment noir, négatif du personnage, alors qu'on n'est pas forcément sur le public de destination, d'origine du roman, en fait.
Déjà, je vais revenir sur les nombreux films d'animation qui ont été faits sur Dracula. Donc on peut voir des références à Dracula dans beaucoup de dessins animés. Bon, on va revenir sur le Scooby-Doo, etc. Dracula, aux enfants, on l'enseigne comme un monstre, comme un être surnaturel qui a des pouvoirs, mais qui est monstrueux. Donc les enfants, ils ont peur de Dracula. C'est, le côté humain est carrément balayé. Et en fait, dans cette adaptation de Dracula de Bram Stoker, même s'il y a le côté créature, j'ai voulu donner un côté plus contemporain, donc le côté humain. Et ce qui a été très difficile dans cette adaptation jeunesse, c'est que qui dit vampire, qui dit mythe du vampire, dit connotation sexuelle, dit sang, dit violence, frayeur et compagnie, et tout ce qui en suit. Et dans cette adaptation jeunesse, j'ai dû vraiment, non pas édulcorer les choses, ce n'est pas du tout mon intention, mais on va dire que les images que j'ai produites devaient être douces et très suggestives. On va dire que Dracula mordre Mina, Lucy, ça n'existe pas dans mon livre, mais tout est suggéré. Donc on peut, par exemple, voir tout au long du bouquin deux nuances globales. Il y a le bleu, que j'ai décidé pour la présence du vampire, car je trouve que le bleu, c'est une couleur fantomatique, et comme le vampire, c'est un être pas tout à fait vivant, pas tout à fait mort. Et dans mon bouquin, il y a deux gammes colorées majeures, il y a le rouge et le bleu. Et en règle générale, le rouge, je l'ai mis dans des, non pas dans la violence, mais dans toutes les scènes qui sont plutôt chaleureuses, on va dire. Et toutes les scènes où il y a le vampire, j'ai choisi une couleur bleue. Je vous invite d'ailleurs à le feuilleter tout à l'heure, comme ça vous verrez mieux ce dont je parle. Et du coup, dans ce bouquin, ça a été très difficile, rien que la couverture. La couverture, si on regarde bien, il n'y a pas de contact direct entre Dracula et Mina. D'ailleurs, même dans Bram Stoker, le contact n'est pas vraiment réel. Et en fait, moi, j'ai pas mal de références cinématographiques. Et du coup, par exemple, quand on voit des affiches comme le Nosferatu de Werner Herzog, où on voit Dracula avec dans ses bras Isabella Adjani. C'est une très belle affiche d'ailleurs, parce que je l'avais d'ailleurs sur mon bureau, donc j'étais très tenté de mettre Mina dans les bras de Dracula, mais là ça n'allait pas en fait. Du coup je me suis dit, plutôt que faire une couverture où il y a un rapprochement entre le vampire et Mina, je me suis dit, l'imposante silhouette de Dracula avec le côté chauve-souris, donc là on est plus d'un côté contemporain, mais pas de vrai contact. Mais par contre, on sent qu'il englobe l'image, et il y a une influence un peu expressionniste allemand, comme on peut le voir aussi dans le film, évidemment, dont on vous avait parlé tout à l'heure, de Murnau, Nosferatu, qui m'a beaucoup inspiré aussi pour cet ouvrage. Mais une des adaptations qui m'a le plus inspiré, on va dire, c'est Coppola, parce que je trouve que c'est une des plus belles esthétiquement. C'est limite, c'est baroque, c'est très détaillé, les costumes sont fantastiques. Et dans mon ouvrage, je pensais que pour justement la jeunesse, faire un livre avec des décorations, des fioritures, etc., ça pouvait bien adoucir justement le propos. Et je suis allé dans le côté poétique de la chose, avec des inspirations Art Nouveau, et qu'on peut aussi retrouver dans des Disney comme La Belle au Bois Dormant, etc. Donc c'était vraiment là la direction artistique que je voulais donner à cet album.
Comment quand on adapte Dracula, peut-on jouer avec les unités de temps et de lieu du récit, parce qu'en fait ça se passe en Roumanie, en Angleterre et sur plusieurs semaines. Comment on abat un peu les difficultés?
Je vais tenter de répondre, puisque moi je m'étais penché très sérieusement sur l'adaptation cinématographique. Ben, c'est des journaux, c'est on l'a, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Il nous donne la clé, Stoker. C'est des journaux qui nous permettent de passer d'un personnage à l'autre sans faire aucun formule enchaînée, parce que tout est en cut. Vous passez d'un personnage à l'autre, vous avez les dates, bon, donc c'est génial, quoi. Et le découpage est quasiment fait, le découpage du roman est quasiment fait, voilà. Enfin, ça c'est mon humble avis, mais parce que justement, moi ce que je trouve, puisque c'est quand même le thème, l'adaptation du roman, il suffit de prendre le roman comme des scénarios, voilà. Et on filme ce qu'il dit. Alors ça a l'air un peu sec comme ça, mais c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, parce que sinon à ce moment-là, on écrit un autre roman qui s'appelle Draculo ou Draculi ou Dracul, je sais pas quoi, mais on ne dit pas je fais Dracula de Stoker. On dit je fais Dracula de Fellini, de Coppola ou de machin. Voilà. Mais si on veut adapter le roman en plus avec Stoker, c'est facile, parce que il écrit ça 2 ans après la naissance du cinéma. C'est, si vous lisez bien le roman, vous allez voir, c'est écrit comme un scénario. Il n'y a qu'à le lire, prendre une caméra et filmer. C'est tout. Et moi, je mets au défi quelqu'un de me dire le contraire, parce que quand j'ai adapté L'invité de Dracula, ben, je ne me suis pas fatigué. J'ai pris ce qui était écrit. Pourquoi j'allais, moi, mettre mon grain de sel dans un truc qui était déjà très fort, très puissant, etc. Non, j'écris, voilà, il arrive dans un cimetière, bon, tout d'un coup une tempête de grêle se met à tomber, il arrive dans un tombeau, il y a marqué dessus « les morts vont vite ». Bon, mais voilà, on fait les décors, on filme, machin, tout, ouais. On suit la description, voilà. Et c'est comme ça que moi, si j'avais pu trouver le producteur de Coppola, je l'aurais adapté comme ça. Voilà. Je ne comprends pas les effets baroques, je ne comprends pas tout ça. Ça y est pas dans le roman, tout ça. Je veux dire, il y a un truc qui est absolument génial dans le roman, c'est quand le vampire Dracula raconte à Jonathan qui il a été. Mais c'est suffisant. Et vous mettez ça dans une salle de château abandonnée, très sale, avec une table de campagne, 2 personnages, il faut les acteurs, ça je vous le conseille, avec 2 très bons acteurs, donc on n'a pas besoin de lumière, de machin, de trucs baroques, de choses, de bidules, de délires, qui sont souvent le fait d'auteurs bon, qui, je veux dire, se servent de concepts qui ne sont pas à eux pour faire leurs œuvres à eux. Bon, vous avez le même phénomène avec Victor Hugo, quand vous lisez Notre-Dame de Paris, vous allez l'adapter à votre sens. je veux dire, il faut être un peu humble aussi devant les écritures. On peut délirer sur le mythe du vampire, ça moi je ne conteste pas, mais délirer sur l'écriture de Stoker, j'avoue que je conteste un peu. Parce que c'est super bien écrit, quoi, c'est tout.
On peut tout à fait le faire, mais il ne faut pas dire que c'est de Bram Stoker, Dracula.
Exactement, c'est ce que je disais. Voilà. On met Dracula, Coppola, comme c'est Fellini qui a raison. Quand Fellini dit Fellini, Casanova, Fellini, on va voir le Casanova de Fellini. On va voir la Rome de Fellini, Fellini, Rome, etc. etc. Mais on ne dit pas j'ai, moi, fait l'œuvre. Voilà.
Nicolas, justement, en tant que metteur en scène, qui justement t'es penché sur le sujet, tu partages la même opinion ou...
Alors oui, et en même temps, après, il y a des difficultés liées au support, parce que moi, c'était au théâtre, donc j'ai eu du mal à faire rentrer les cimetières, les châteaux, tout ça. Donc j'ai eu cette difficulté-là, et une autre difficulté qui est temporelle. On est obligé d'enlever des choses pour que ça tienne en une durée. Voilà. Donc je suis tout à fait de cet avis-là. Après, des fois, comme on ne peut pas, c'est choisir des ambiances, choisir des passages. Donc, avec des choix, il y a des sacrifices qui sont faits. Et quand on n'a pas les moyens nécessaires pour rendre ce qui est écrit, essayer de trouver d'autres moyens qui, selon soi, rendent la même ambiance, rendent les mêmes impressions.
Mais moins cher.
Mais nettement moins cher. Moi, j'ai beaucoup travaillé et j'espère que ça fonctionne, en tout cas sur la suggestion, sur les ambiances. Avec du son, des lumières et beaucoup d'ombre. Enfin, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre, et surtout dans un type de roman comme celui-là. Et c'est avec ces outils-là que j'ai et les comédiens pour rendre tout ça. Mais sinon, je partage tout à fait. Et puis pour ce qui est de réduire les durées et tout ça, effectivement, moi j'ai utilisé un vidéoprojecteur qui donne les dates, les lieux. J'ai rajouté des cartes parce qu'on ne sait pas exactement où se trouvent spécialement certains lieux. Pour aider le spectateur à savoir où on se trouve et quand.
Donc, aujourd'hui, en fait, comment adapter ou pasticher une œuvre aussi emblématique de son époque, donc, du coup, qui est vraiment coincée dans les codes moraux et sociaux de l'époque victorienne, alors qu'aujourd'hui, en fait, tout ça a plus d'un siècle, tout ça est très daté, en fait. La société a énormément évolué depuis, donc comment se pencher là-dessus justement pour que l'œuvre parle des adaptations, des pastiches ou des suites puisse parler en fait à un public contemporain.
Non mais des fois c'est pas la peine de pasticher. Hein. On vient de se taper un vampire pendant 5 ans, c'était bon.
Ouais, je sais pas, je pense que les choses se font toutes seules en fait. Dracula, ça draine des thèmes éternels, donc qui fonctionnent à toutes les époques. Alors, par contre, l'ambiguïté, enfin, ce qui m'a toujours étonné, c'est que Dracula, ça fonctionne au cinéma quand c'est vraiment situé dans son époque. Tous les Dracula qui ont voulu être réactualisés et se passer à l'époque contemporaine sont pas du tout crédibles, ça marche pas. C'est-à-dire, Dracula fonctionne avec son époque, avec son environnement. Alors que, pourtant, ça draine des thèmes éternels. Donc ça, c'est un petit peu étonnant, et c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé d'explication véritable.
Un peu comme Lovecraft.
Lovecraft, c'est encore plus compliqué.
Mais clairement, justement, lui, c'est mieux réussi quand c'est justement dans les années 20, parce que ça a une certaine ambiance, tandis que du Lovecraft à notre époque.
Et puis en plus, Lovecraft, ça... Il y a un problème énorme, c'est visualiser l'univers de Lovecraft. C'est tellement complexe, tellement intellectuel que il faut être vraiment très très fort pour arriver à le rendre en image. Pour l'instant, je crois que personne n'y est arrivé.
Moi, je pense que si justement on ne met pas le vampire dans un univers contemporain, j'ai peur que le fait de le mettre tout le temps dans la même époque, j'ai peur que le vampire va s'essouffler avec le temps.
Oui, non mais. Moi, j'ai parlé de Dracula, pas
de
vampire.
D'accord, de Dracula. Donc, autant pour
pareil.
Moi. Autant pour moi.
Bon, moi, je vais essayer tout à l'heure de montrer ce qui est l'ambiguïté de Dracula. C'est qu'à la fois, comme on vient de le dire, les personnages de vampires gothiques ne sont plus à la mode, alors que Dracula continue à l'être. Donc là, il y a une espèce de... Mais comme on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est parce qu'il s'est élevé au rang du mythe, et donc il dépasse complètement la problématique habituelle des personnages de fiction.
D'angélisme où tout est bien qui finit bien, à la fin le monde n'est pas gouverné par les vampires, alors que actuellement on a dépassé un peu les scénarios hollywoodiens où tout se termine bien. Et si on se réfère à l'histoire initiale, Vlad était bien le seigneur, celui qui dirigeait, celui qui régnait, celui qui empalait les gens. Donc est-ce que dans notre évolution où on a un réalisme qui est beaucoup plus, on va dire entre guillemets, risqué pour le fonctionnement de la société, on ne, n'est pas dans une démarche où bientôt on ne sera plus dans le, tout est bien qui finit bien, et ce qui changera complètement l'ambiance, sur, en tout cas de ce qui se passe, de l'évolution où on sent quand même au travers du récit que ce vampire ne va pas sortir victorieux, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui on serait plutôt pour... attention à la victoire des vampires.
Personnellement, moi, je pense que si dans le roman de Stoker, le vampire est terrassé à la fin, c'est pour des raisons, je dirais presque, de société. Stoker voulait écrire un roman édifiant, et il fallait que pour les lecteurs victoriens, le roman soit édifiant. Mais en fait, il a conçu le roman de telle façon que cette fin paraît totalement artificielle, à mon avis, hein, ça c'est mon point de vue de lecteur. C'est-à-dire que Dracula est un personnage qui domine tellement les autres qu'on ne voit pas pourquoi il devrait être vaincu par l'un de ces personnages totalement falot, hein, parce que parmi les adversaires de Dracula, en dehors peut-être de Mina, qui est un personnage exceptionnel, mais en dehors de Mina, ils sont tous minables, hein, c'est une bande de minables. Et Von Helsing en tout premier lieu. Donc on pourrait dire que véritablement celui qui le personnage qui domine, c'est Dracula. Et cette fin est aussi artificielle que les happy ends des films américains aujourd'hui, dans l'autre sens.
Juste pour rebondir, je suis assez d'accord. On sent que la fin elle est plus pour la convention. Je reviens sur Don Juan de Molière. On en parlait, pareil, il y a une fin super rapide où Don Juan arrive en enfer, c'est fait en 3 pages, alors tout le reste, on doit faire ses exactions. Et pareil sur Dracula, la fin est très rapide alors que le livre est long. Et moi, personnellement, quand je l'ai lu, à la fin, quand on ferme le bouquin, c'est quand même Dracula, Renfield, les scènes avec Mina, Lucie, qui reste le début avec le château plutôt que le moment où il se fait tuer. Enfin, après, c'est chacun, comment chacun le perçoit, mais.
Moi, je pense que la fin, effectivement, peut avoir un petit côté commercial pour l'époque. Et, parce que déjà que l'éditeur trouvait que c'était trop long, il dit bon. Fin. Et quand le bouquin est paru, la nouvelle qui s'appelle L'invité de Dracula n'a pas été éditée de suite. Parce que l'éditeur trouvait le bouquin trop long. Et c'était dommage parce que L'invité de Dracula, qui est le prologue du roman, est très important pour comprendre, en fait, pour la suite. Bon. Alors déjà, il y a peut-être ça, le côté bon, mais moi, je est-ce que vous pensez que ça finit vraiment bien? Parce que certes, le vampire est mort, mais il laisse une trace indélébile. Et je ne pense pas que ça soit une fin. Je pense que là aussi, il y a encore un grand signe d'intelligence de Stoker qui nous dit, ouais, bon, ok, allez, on va le tuer à la fin, mais il nous lègue quelque chose pour des siècles et des siècles. C'est-à-dire qu'il nous lègue la réflexion en nous disant, est-ce qu'on n'est peut-être pas toujours le vampire de quelqu'un? Est-ce que vous pensez que, que ce mythe, qui est un mythe profondément intellectuel, les vampires, ça n'existe pas, tout le monde le sait, sauf dans les légendes et les trucs, c'est un mythe intellectuel. Donc, moi, je ne pense pas que ça finisse si bien que ça, parce que Mina, elle va garder la trace toute sa vie. comme disait Jean, les autres apparaissent comme des minables. Bon, et voilà, donc je pense que ça finit pas si bien que ça, parce que Stoker a l'air de nous dire, bon, s'il faut pour bouger une société ce genre de personnage, bon, mais faisons-le. Bon, voilà. Je ne sais pas si, si ça finit si bien que ça. C'est pas parce qu'il meurt que ça finit bien.
Mais c'est un mythe intellectuel, mais également une métaphore de ce qui se passait avec Vlad.
Oui, mais moi je.
Si intellectuel que ça, ce qui se passait à l'époque.
Ben, attention avec Vlad, parce que Vlad, ils étaient une poignée à lutter contre des envahisseurs turcs. Alors il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou les autres, mais ça, ce sont des faits historiques. Et qu'il n'avait rien trouvé de mieux que d'empaler tous ses adversaires pour leur faire peur, et ça a marché. Bon. Et les gars, ils ont dit, voilà, lui, il n'était peut-être pas aussi fondamentalement terrible qu'on peut l'imaginer. Et puis, c'était il y a 5 siècles. Je veux dire, l'humanité n'avait pas le même bagage culturel qu'aujourd'hui. Ça n'a pas empêché ce qui s'est passé en 1945, hein, l'histoire de Vlad Tepes, voilà. Alors, avions-nous affaire là à un vampire ou à un fou ou à un mec raisonné, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que 1945, ça finit bien aussi. Est-on sûr que ça finisse bien?
La réponse est non.
Voilà. La réponse est non, parce que moi, je ne pense pas. Alors, évidemment, à la fin, le méchant meurt. Bon, à la fin, les méchants meurent. Bon, mais c'est pas pour ça que ça finit bien, hein.
C'est même pour sortir du cadre strict du personnage de Dracula, j'étais un petit peu comme vous, je désespérais de la littérature vampirique contemporaine, parce qu'à longueur de page, on nous disait que les vampires étaient de braves types, et qu'à la fin de chaque roman, finalement, tout se passait bien, il y avait un happy end. Bon, alors, évidemment, dans Twilight, c'est tout à fait patent, hein, dans les 4 romans. On voit les problèmes qui séparent Bella d'Edward et du loup-garou qui aime Bella. Mais à la fin, tout s'arrange bien, ils se marient, ils ont une fille dans des conditions difficiles, mais ça s'arrange et finalement tout est beau, tout est gentil. J'avais donc une espèce où je me disais, bon, ben, maintenant c'est fini, le verre est dans le fruit, la littérature vampirique, c'est fini. Et puis j'ai lu un roman qui m'a profondément remué, et que je vous recommande absolument. Hein, c'est le roman d'un auteur suédois qui s'appelle Esmond Entrer, et où on a un personnage de vampire qui est à la fois attachant et pathétique, mais qui est aussi absolument horrible, hein, qui commet des crimes avec une férocité de loup. Quoi. Et à la fin du roman, c'est elle qui gagne. C'est elle qui gagne, hein. c'est pas le droit qui transporte.
Elle transmet.
Et le roman s'achève par un véritable massacre dans une piscine. Et la gamine, c'est une gamine en plus, hein. C'est une gamine de 12 ans, hein, le vampire. Et à la fin du roman, eh bien, elle s'en va tranquille, sachant qu'elle continuera. Donc c'est une note totalement différente de la tendance actuelle qui était à la béatification du vampire. Et donc ça me laisse un petit espoir quant à l'avenir des vampires en littérature.
Oui, juste pour s'amuser un peu, en gros, Dracula finit bien et Twilight finit très mal.
on va faire une dernière question parce qu'après on va être pris par le temps.
Oui, mais enfin, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Est-ce que ça ne serait pas tout simplement pour des raisons commerciales qu'on est dans cette espèce de bêtise
Mais non, mais surtout non. Soyons pas naïfs.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. La preuve.
Donc, je remercie beaucoup nos intervenants d'avoir participé à cette table ronde. On va donc très prochainement laisser la place à Simon Sonnejas et Gwen Vivant-Tonieux, qui vont finalement relater leur voyage sur les traces de Dracula, à la fois en Transylvanie et en Angleterre, sachant que le résultat de leur voyage, c'est le livre La Poursuite de Dracula, qu'ils peuvent vous dédicacer et qui est en vente à la boutique. On va leur laisser présenter finalement leur voyage et ce qui a donné lieu à ce livre. Donc, si la formule demande de se préparer techniquement, on en veille. Merci à vous.
Est-ce que vous connaissez les deux